My gang will get you.
Les enfants du Nouveau Monde, une émission de Céline Elodie. Même si on nous en parle si peu, le monde est rempli de belles choses. Des humains en marche, des initiatives pleines de bon sens et d'humanité. Nous sommes tous une étincelle de cette transformation. Avec les enfants du Nouveau Monde, partons à la rencontre des terriens d'ici et des humains de là-bas. Des enfants de la Terre, qui aiment notre planète, qui croient en leurs rêves et qui créent un monde meilleur dans leurs actions quotidiennes. Aimer l'humain, humer l'humus, humiliter avec humilité. Bienvenue sur Terre, enfants du Nouveau Monde.
Hey man, you want girls? I'll show you a good time. This place has everything. Come on, I'll show you.
Salut à tous, vous êtes à l'écoute des Enfants du Nouveau Monde sur Radio 16 et je suis ravie, mais vraiment ravie de vous retrouver en ce joli mois de juin. Alors ce mois-ci, nous allons nous intéresser à une méthode de communication que j'estime révolutionnaire. Alors non pas au sens de révolution qui retourne en arrière, mais plutôt d'évolution. Un grand pas en avant vers la réalisation de nos rêves, donc révolutionnaire avec un chapeau sur le rêve. Cette technique de communication, elle porte l'acronyme de CNV, c'est la communication non violente. Alors pourquoi non violente ? Eh bien parce que même les plus doux d'entre nous, nous avons quasiment tous été éduqués dans une société et une culture où la communication est farcie de violences cachées ou carrément admise et banalisée. Alors une violence que l'on ne voit même plus tellement on y est habitué et pourtant c'est une source de nœuds et de souffrances dans les relations entre nous, entre parents et enfants, entre conjoints, entre amis et même entre collègues, notre communication est violente. Eh oui madame, vous ne vous en doutiez point. Cette violence est tournée soit contre l'autre, soit contre soi-même et sans même en avoir conscience. Combien de fois, par exemple, dans une journée, vous vous dites à vous-même « Quel idiot, j'aurais pu penser à faire ça !» Ou bien « Il a vraiment déconné là-dessus !» Ou bien « Elle est dans la merde en ce moment !» Ou encore « Tu abuses, je t'avais demandé de... Je peux vraiment jamais te faire confiance !» Toutes ces remarques sont dites avec la meilleure intention, en toute bonne conscience, oui, mais sans la réelle conscience de la violence que véhiculent ces propos et comment ils enveniment nos relations aux autres et à nous-mêmes. Or, le premier pas dans l'évolution de l'être humain, c'est bien de prendre conscience de qui il est et du monde qui l'entoure. Et souvenez-vous, au commencement était le verbe. Pour ceux qui ont déjà lu les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, vous savez qu'avoir une parole impeccable est l'un des 4 accords piliers pour maîtriser sa propre vie. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, les 4 accords Toltec, eh bien, je vous encourage à vite vous dévorer ce petit livre de poche qui, pour seulement 5€, vous offrira des clés gigantesques pour redevenir le capitaine de votre navire et comprendre peut-être un peu mieux la traversée que l'on effectue sur cette belle planète bleue. Revenons-en à cet engagement de faire de notre mieux pour avoir une parole impeccable. Donc, vu nos habitudes de langage, cela demande un réel effort et tout d'abord de comprendre les mécanismes de la communication. Pourquoi on s'adresse aux autres ? Voir pourquoi on s'agresse aux autres. Doit-on exprimer tous nos sentiments ? Ou bien prendre sur soi, serrer les dents, ravaler sa colère et sa frustration, au risque de se faire un ulcère ou une autre maladie plus grave encore, car rappelons que dans le langage des oiseaux, maladie vient du verbe maladir, avoir du mal à dire quelque chose. Et que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime en nous, dans nos cellules. La colère, le chagrin, la peur, si on ne les exprime pas, ils s'impriment. Et ils nous détruisent de l'intérieur. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, et quand on réprime, on déprime. Pensez-y. Bon, ok, mais quand on a les boules, quand on a la rage contre quelqu'un ou quelque chose, quand on est simplement très agacé, comment le dire à l'autre sans l'agresser, sans le vexer, sans se disputer ? Est-il possible d'être entendu, écouté dans nos souffrances, dans nos sentiments, sans être jugé ? Moraliser, accuser ? Est-il possible de s'expliquer avec quelqu'un, pas pour tendre la relation, mais pour la détendre ? Eh bien oui, c'est possible tout cela. Grâce à la communication non violente, la CNV. Bon, il existe des livres qui en parlent très bien, mais après la théorie, passons à la pratique. Je me suis donc rendue à un atelier de communication non violente à Molière-sur-Cèze un dimanche matin. Oui, certes, il faut être motivé. Mais quand on a goûté au changement que produit la CNV dans nos vies, on est prêt à s'accrocher pour apprendre à communiquer sans violence. Retrouvons Martine Jouvin, l'animatrice de l'atelier CNV et les participants de cet atelier.
Alors, nous sommes en compagnie, en joyeuse compagnie de Jean-Pierre et Hermine, bonjour, qui nous accueillent au Mas Rivière. Et c'est chez vous que se déroulent les ateliers communication non violente une fois par mois, animés par Martine Jouvin. Coucou Martine.
Bonjour.
Et il y a Guy, le compagnon de Martine, qui est présent aussi aux ateliers et qui s'est mis à la CNV récemment alors.
Oui, ben je m'y suis mis pour de vrai en rencontrant Martine. Mm-hmm. Et j'avais fait une approche déjà, mais très superficielle.
Mm-hmm. Ma première question pour vous tous, peut-être excepté Martine qui toi tu animais l'atelier, donc c'est plus pour les participants de l'atelier. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cet atelier de ce matin qui concernait principalement comment faire une demande et quels sont nos freins dans le fait de demander quelque chose?
Jean-Pierre, j'ai entendu que c'était souvent des peurs de ne pas faire plaisir à la personne en face, quoi, à qui on demande, hein, donc. La peur du refus, la peur, il y a énormément de peur et c'est assez variable suivant les personnes. Et maintenant, on va apprendre à demander grâce à cette formation et à oser demander et de façon quand même beaucoup plus libre, beaucoup plus simple, beaucoup plus facilement. Voilà.
Hermine.
Moi, j'ai appris qu'une des plus grands besoins qu'on a tous, c'est contribuer à le bien-être de l'autre. Et voilà, et donc justement, par faire une demande à quelqu'un, c'est quelque part lui faire un cadeau parce qu'il pourrait remplir ce besoin ou satisfaire son besoin de contribuer au bien-être de l'autre. Donc voilà, ça enlève aussi toute le peur en fin de compte du rejet. Et après aussi, ça fait que une demande, c'est pas une exigence, voilà, parce que ça, c'est encore autre chose. Voilà.
Et toi, Guy?
Oui, ça rejoint un petit peu ce que disait Hermine, c'est reconnaître que chaque individu a un vrai besoin de contribuer, que c'est un besoin vital. Eh bien, ça aide fortement à pouvoir lui demander ce qui correspond vraiment à nos besoins. Donc j'ai besoin de ça, est-ce que tu peux? Et on peut accepter le refus sans souci parce que on saura que s'il a la possibilité, il le fera. Mmh. Et s'il le refuse, c'est qu'il n'a pas la possibilité. Mmh.
Ça permet de faire évoluer les relations, la communication non violente. Mm-hmm. Vous, ça fait combien de temps que vous la pratiquez, Jean-Pierre et Hermine?
Mais moi, c'est de manière intensive, donc ça veut dire que des modules que la communication non violente propose, ça fait déjà depuis 3 ans. Avec Martine, ça fait aussi 3 ans, et donc ça, c'est plutôt des séances de pratique, un atelier de pratique, localement, parce que souvent pour les modules, il faut aller loin. Et c'est très important, c'est comme une langue qu'on apprend, de le mettre en pratique. Et donc le fait que Martine anime ses ateliers, ça donne l'occasion de mettre les choses en pratique, et en pratique pendant l'atelier, mais aussi après dans la vie quotidienne. Et aussi, ça donne la possibilité de mettre à nu, à plat, toutes les peurs qu'on a, et de voir aussi chez l'autre qui souffre quelque part des mêmes peurs. Et ça fait, on va vraiment à l'essentiel de quelque chose qui a en l'humain, en chaque humain. Et c'est ça, et je trouve ça vraiment, ça donne des vraies rencontres, et vraies rencontres avec soi-même, mais aussi avec l'autrui.
C'est vrai que moi, il y a un côté qui me surprend et qui me plaît beaucoup dans la CNV, c'est découvrir à quel point les besoins humains sont universels, en fait. Et du coup, on se reconnaît dans l'autre. Et effectivement, il est différent, il a d'autres façons de l'exprimer, etc. Mais on a tous une grande ressemblance, quoi. On trouve notre point commun d'humain, vraiment, à travers la CNV. Vous l'avez beaucoup utilisé, j'imagine, dans vos vies respectives, dans vos relations. Ça vous a aidé à dépasser certaines difficultés, la CNV?
Oui, moi je pense que déjà au niveau familial, on a pu avancer pas mal de choses dans les relations avec nos enfants, mais aussi dans les relations dans le couple. Et moi, je trouve vraiment ça amène une sérénité. On sait que voilà, que quand il y a une difficulté, parce que la vie amène ces paquets de difficultés ou des problèmes, on peut toujours retomber en regardant et respectant nos besoins de l'une et l'autre. Et donc, on n'a plus besoin de rester dans les sentiments de colère ou de tristesse ou de... Donc voilà, on sait que voilà que derrière ces sentiments-là, il y a un besoin qui est satisfait ou pas satisfait. Donc et là, on peut à ce niveau-là, on peut parler tranquillement.
Mmh. Mmh. Je vais donner la parole à Martine. D'abord, je tiens à te remercier, Martine, de nous faire découvrir ce bel outil, ce magnifique outil de la communication non violente, parce que là, à travers les différents participants à l'atelier que j'ai interviewé, ils expriment tous à quel point ça a changé leur vie réellement, mm-hmm. et changé leur relation avec leur famille, leur entourage et avec eux-mêmes aussi. Alors, j'ai une question à te poser, la première essentielle. C'est quoi la CNV? Comment tu la définirais? Comment tu la décrirais, toi? C'est la communication non violente, la CNV, pour aller d'intime.
Alors, je vais en parler un peu longuement, parce que c'est quelque chose qui peut se définir à plusieurs niveaux. Donc, le premier niveau, c'est que la communication non violente, c'est souvent vu comme un outil de langage pour améliorer les relations avec nous-mêmes et avec les autres. Et quand on remonte vraiment aux origines et à Marshall Rosenberg, pour lui, c'est quelque chose de beaucoup plus révolutionnaire que ça. C'est-à-dire que la langue que l'on parle, notre langue maternelle, mais aussi notre façon de parler en jugement ou de croire que nos propres valeurs sont les valeurs des autres, c'est quelque chose qu'on apprend quand on est tout petit et on n'a pas de recul par rapport à ça. Donc on en est vraiment imprégné. Et pour lui, le processus de communication non violente, c'est d'abord un processus qui va guérir de la souffrance grâce à un déconditionnement de toutes ces imprégnations qu'on a reçues étant enfant. Et c'est un processus de guérison qui passe par la parole. Voilà, donc ça peut être une première définition. Ensuite, ce qui est très connu de la communication non violente, c'est ce fameux processus en quatre étapes. Quand on va parler à quelqu'un, on va utiliser ce qu'on appelle l'observation, le sentiment, le besoin et la demande. Et là, je cherche un exemple.
Alors, en attendant que tu cherches l'exemple, je vais essayer de décrire à nos auditeurs, ce qui n'est pas facile, de décrire un petit schéma, un petit dessin. Mais on peut imaginer un petit bonhomme comme ça, dont la tête serait le niveau de l'observation, puisque c'est la première étape de ce processus. Donc,
Oui, donc le petit bonhomme, au niveau de la tête, hein, c'est l'observation. Et l'observation, c'est... décrire les choses de manière neutre. Et ça se passe effectivement au niveau de la tête, hein, puisque ça va être relié à nos pensées. Mais on va essayer de dégager nos pensées de nos jugements, des conseils qu'on aurait envie de donner, des « il faut », des « il devrait », voilà.
Donc on essaye de regarder la situation de façon la plus neutre et objective possible, comme si on était un extraterrestre qui arrivait sur cette planète, qui voyait « ah, là, il y a conflit, par exemple », ou « là, il y a... »
Oui, on remarque...
Là, on remarque qu'il y a de la discorde, là, on remarque qu'il y a de la...
Oui, ça va être beaucoup plus précis que ça. C'est donc je connais une formatrice certifiée qui dit c'est une observation, c'est comme ça que parlent les gendarmes. Les gendarmes, ils, quand ils arrêtent quelqu'un, ils disent pas vous roulez trop vite. Ils disent là vous rouliez à 95 km/h sur une route où la limitation de vitesse est à 70 km/h. Donc, si on souhaite parler à un adolescent du monstrueux bazar qui règne dans sa chambre, on va choisir de lui dire « là, je vois que tu as tes chaussettes qui sont par terre, que tes livres sont tous étalés sur ton lit et que tes vêtements ne sont pas dans le placard, mais sont... sur ta chaise, mélanger les uns aux autres. Voilà, on va essayer d'être dans quelque chose de neutre.
Et non pas lui dire c'est insupportable cette énorme porte de bip qu'il y a dans ta chambre.
Voilà.
Parce que là, on porte un jugement.
C'était le Roman Acoustic Quartet, composé entre autres des frangins ou cousins du célèbre Django Reinhardt, Yayo et Fanto Reinhardt, ainsi que de Roman, guitariste de swing manouche. Ça, ça nous met les poils et nous hérisse l'épine dorsale, comme le dirait Sanseverino. Alors, retour dans les enfants du Nouveau Monde sur Radio 16 99.2. On parle de CNV, de communication non violente, avec Martine Jouvin. Alors, pour résumer la première étape de la CNV, d'abord, on observe la situation sans la juger, ce qui déjà n'est pas facile. Et puis...
Alors, la seconde étape dans ce processus, c'est l'analyse des sentiments qui nous animent. Donc, ça correspond au cœur de ce bonhomme. D'ailleurs, c'est représenté par un gros cœur. C'est sa poitrine, son corps. Donc, il a sa tête qui observe. Il a son cœur qui est animé de plein de sentiments. Et donc, le travail de la CNV, c'est vraiment d'aller décrypter, analyser, identifier les sentiments qui nous animent.
Voilà, donc... au niveau des sentiments, donc on appelle ça sentiments, on peut appeler ça aussi des ressentis, hein, des émotions. On va les considérer comme si on était dans une voiture, comme si on regardait le tableau de bord d'une voiture. Et on va avoir certains sentiments qu'on considère plutôt agréables. Et c'est comme si c'était des clignotants qui étaient au vert sur la voiture. Et puis, on va aussi avoir certains clignotants sur la voiture qui peuvent être au rouge. Et là, c'est des émotions qu'on va plutôt considérer comme étant désagréables, mais qu'on va aussi pouvoir voir comme des indicateurs de quelque chose à faire. Si sur la voiture, la jauge d'essence... Hein, descend au plus bas, on va aller mettre de l'essence. Si il y a l'avertisseur qui nous dit qu'il faut faire la vidange, on va aller faire la vidange. Et avec la communication non violente, on apprend ça. C'est-à-dire on apprend à considérer nos sentiments comme des indicateurs qui nous disent soit tout va bien à l'intérieur de nous, soit ça va pas tout à fait bien et il faudrait prendre soin de quelque chose.
Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire que nos sentiments désagréables, déjà, ils ont une raison d'être, ils sont utiles, ils nous renseignent, et en plus, qu'on peut faire quelque chose, même qu'on devrait faire quelque chose, qu'ils sont là pour nous dire « il y a quelque chose à faire ».
Il y a quelque chose à faire, ouais.
Donc, en fait, nos sentiments et nos émotions désagréables nous renseignent sur nos besoins. Et ça, c'est la troisième étape.
Donc, la troisième étape, c'est effectivement, on descend encore plus en profondeur à l'intérieur de nous. Dans le dessin du petit bonhomme, ça se passe au niveau du ventre. Et on considère que une émotion est reliée à un besoin. Et ce besoin, je peux choisir d'en prendre soin par moi-même ou je peux choisir de faire une demande à l'autre pour qu'il m'aide à en prendre soin ou pour lui demander d'en prendre soin lui.
Et donc, on arrive à la quatrième étape qui se situe au niveau des pieds du petit bonhomme, hein, dans le schéma, qui est donc apprendre à faire une demande. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est dans le cas où on choisit de ne pas répondre à notre besoin par nous-mêmes, mais qu'on aimerait faire... Enfin, on pense que ça passe peut-être plus par l'autre, par une interaction avec l'autre pour répondre à ce besoin. Et dans ces cas-là, on va aller faire une demande à l'autre. Et on a vu à quel point c'est pas toujours facile d'aller faire une demande, qu'on a plein de freins qui font qu'on est réticent pour ça, et trouver la façon de demander aussi, ça c'est pas toujours facile. Oser affronter un possible non, un possible refus. Tout ça, c'est des choses qui paraissent essentielles quand on les apprend, quand on les découvre, et on se demande comment on a pu passer à côté de ça pendant tant de temps dans notre vie, en fait. On se sent un peu... finalement, un peu barbare de se dire, on a passé tant de... Enfin, moi, personnellement, je me dis, mais passé tellement d'années à pas savoir identifier mes besoins, mes sentiments, mes émotions. Et puis aussi, la plupart du temps, quand j'avais des sentiments ou des émotions négatives, de me culpabiliser moi-même en me disant, Mais c'est pas possible de se mettre en colère pour ça, ou d'être triste pour ci, ou de, enfin, donc de me culpabiliser, de pas me sentir légitime d'avoir ces sensations, alors qu'en fait ces sensations venaient juste me dire « Hey, tu as des besoins là essentiels qui sont pas comblés, il faudrait que tu les regardes de plus près et que tu trouves une façon de les combler.
»
Donc c'est le serpent qui se mord la queue, hein. Moins tu vas regarder tes besoins, plus tu vas être en colère, plus tu vas être triste, plus etc, etc, ça peut aller loin tout ça.
Oui, l'étape de la demande, en fait, elle est essentielle, parce que il y a une observation, un sentiment, un besoin, et à partir de là, qu'est-ce que je fais? Donc c'est aussi un côté un peu révolutionnaire chez Marshall Rosenberg. La demande, elle est symbolisée par les pieds et les bras du petit bonhomme, et c'est un passage à l'action. Donc soit vis-à-vis de soi-même, soit vis-à-vis de l'autre. Si je reprends la chambre de l'adolescent qui est en bazar, je peux me dire, oulala, quand je vois toutes ces choses qui, à mon avis, sont pas à leur place dans sa chambre, je me sens vraiment gênée, parce que moi, j'aime l'ordre, et j'ai aussi envie de voir que l'éducation que je lui donne, ça porte ses fruits. Et qu'est-ce que je vais faire comme demande à partir de ça? Je peux choisir de ranger sa chambre, moi, parce que c'est trop insupportable de la voir comme ça. Je peux choisir aussi de lui en parler, et de voir avec lui si à un moment donné il sera d'accord pour remettre de l'ordre, ou si il a besoin d'aide et qu'on trouve un moment pour le faire ensemble.
Donc dans cet exemple très fluide que tu viens de nous donner, on sent toute la pratique qu'il y a derrière. On est donc passé par toutes les étapes, chers auditeurs. Nous allons redétailler à l'instant pour que vous voyez. Donc l'observation, c'était donc le fameux bazar qu'on a essayé de décrire de façon la plus neutre possible. Le sentiment, c'était je me sens gênée, parce que mon besoin, c'est j'ai besoin d'ordre. Et j'ai besoin aussi que mon éducation, sentir que mon éducation a été transmise à mon enfant. Et donc, après, là, cette personne était donc en réflexion sur quelle demande. Est-ce qu'il y a une demande? Est-ce que je vais répondre à mon besoin par moi-même, ou est-ce que je vais faire une demande à l'autre? Voilà, donc là, on a vu toutes ces étapes. Donc là, on a résumé le processus de la communication non violente, Martine?
Oui, on a résumé le lien qu'il y a entre ce que je vois ou ce que j'entends à l'extérieur, donc qu'on nomme l'observation, et on a fait le lien avec mes sentiments, mes besoins et la demande que je vais faire. Donc c'est quelque chose qui permet ce qu'on pourrait appeler dans d'autres circonstances ou dans d'autres disciplines, un centrage. À ce moment-là, on est une personne peut être alignée, c'est-à-dire qu'il y a vraiment de la cohérence entre ce qu'elle voit, ses pensées, ses émotions, ses besoins, et ce qu'elle va faire pour passer à l'action. Donc si tout va bien, elle va peut-être choisir de continuer la même chose, et si ça lui convient pas, elle va choisir de changer les choses par elle-même, ou demander à l'autre quelque chose qui lui rendrait la vie plus belle.
Alors justement, en parlant de vie plus belle, est-ce que toi, à la CNV, ça a rendu ta vie plus belle?
Oui.
Là, ça, c'est Guy qui a répondu, c'est le compagnon de Martine, alors il témoigne pour lui.
Oui, moi, la pratique, hein, de la communication non violente, à la fois en intérieur, c'est-à-dire de moi-même, vis-à-vis de moi-même, ce qu'on appelle l'auto-empathie, et puis ce que je peux aussi mettre en pratique dans ma vie, ça a transformé ma vie sur plusieurs années. Et dans différents domaines, ça a été quelque chose d'assez progressif. Mais ça a changé mes relations avec mes parents. Ça a changé ma relation à moi-même. Donc j'ai vraiment une relation plus douce vis-à-vis de moi-même, et plus profonde Et plus apaisée et plus consciente. Donc ça, c'est moi-même vis-à-vis de moi-même. Et ça a aussi changé la manière dont je pouvais être en relation avec les autres.
Une question qu'on pourrait se poser a priori comme ça, c'est est-ce que la communication non violente s'est destinée plus à des gens qui ont tendance à s'exprimer violemment, c'est-à-dire à être sujet à la colère, à s'emporter, ou à juger, ou à accuser les autres, ou est-ce que ça c'est aussi aussi bon et ça a autant d'apports positifs pour les personnes qui sont plus timorées, qui peuvent avoir tendance à peut-être à éviter le conflit, peut-être même à se soumettre, à...
En fait, la pratique de la communication non violente, ça explore un petit peu les deux voies. C'est-à-dire que une personne qui a tendance à parler beaucoup, à être ou à se mettre facilement en colère, elle va venir à la communication non violente pour essayer un petit peu de s'apaiser intérieurement et pour être un petit peu plus à l'écoute de l'autre. Et oui, une autre manière de venir à la communication non violente, ça peut être effectivement se rendre compte que j'ai envie de dire des choses, j'ai envie d'intervenir plus en réunion et je me tais parce que je sais pas comment dire les choses. Et donc, pour des personnes, ça va développer plus le côté je peux m'affirmer plus de manière authentique. Et au départ, c'est des personnes donc, qui sont plus dans l'écoute, donc elles vont développer l'affirmation d'elles-mêmes, mais en ayant encore le souci d'être à l'écoute de l'autre et de rechercher des solutions qui conviennent aux deux ou à elles et au groupe avec lequel elles sont.
Donc en fait, c'est vraiment un outil au service de qui équilibre toutes les natures, qu'elles soient plus émettrices et qui parlent beaucoup ou qui soient plus silencieuse, un peu introvertie, ça va aider à équilibrer finalement et à être plus authentique avec soi-même, quelle que soit la nature de la personne.
Oui, quand il y a un schéma, il y a le schéma du 8 couché, le schéma de l'infini, mm-hmm. qui sert à représenter un dialogue en communication non violente. Parce qu'on va exprimer quelque chose à quelqu'un et puis on va lui demander un retour et on va écouter donc le feedback qu'il nous donne et on va aussi nous dire à nouveau où on en est par rapport à ça. Donc ça forme les deux boucles du 8 et on peut poursuivre ça jusqu'au moment où on trouve un accord.
ከፍ ቀን በቀን ጊዜውን በደስታ ስናሳልፍ
Vous écoutez Radio 16, c'était The Aiden Rachel Project dans Les Enfants du Nouveau Monde, où l'on parle communication non violente.
Comment ça se déroule un atelier CNV ? Parce que du coup, toi, c'est ce que tu fais, tu organises des ateliers communication non violente. Comment ça se déroule ? Quelles sont les grandes étapes ?
Alors, la première étape de l'atelier, c'est une invitation pour chaque personne à un centrage corporel. Parce qu'en fait, on arrive chacun avec... notre quotidien et puis avec le trajet qu'on vient de vivre jusqu'au lieu de l'atelier et le temps de centrage corporel sur lequel on va s'intéresser à notre respiration et aussi à l'intérieur de notre corps, et ben ça permet à chacun de se poser et ça donne un espace de transition entre la vie quotidienne et l'atelier. Et donc, une fois qu'il y a eu ce centrage corporel, souvent l'atelier démarre, soit je présente les grandes lignes de l'atelier, soit on démarre par ce qu'on appelle un tour de météo.
Qu'est-ce que c'est un tour de météo ?
Eh ben, c'est comme la météo. Soit il y a du soleil, soit il pleut, soit il y a un ciel bleu mais avec quelques nuages... Et donc, chaque personne est invitée à tour de rôle à partager sa météo intérieure, c'est-à-dire à dire aux autres comment elle se sent à ce moment-là, si elle se sent plutôt joyeuse, plutôt triste, plutôt désemparée. Et puis aussi à faire le lien avec les besoins qui sont présents pour elle à ce moment-là.
Mmh. Parce qu'alors, donc ça, c'est vraiment, on l'a vu, une étape cruciale, donc faire le lien avec ses besoins. Pour ça, souvent, tu nous mets à disposition une liste de besoins. C'est un outil qui est beaucoup utilisé, ça, dans la CNV, qui est très, très intéressant. C'est là qu'on voit que nos besoins sont universels et qu'on se ressemble quand même beaucoup, tous. On n'a pas tous tout à fait les mêmes besoins, sont pas aussi forts chez les uns chez les autres, mais en tout cas, tous ces besoins-là, on les a tous un peu.
Oui, les besoins, ils sont considérés comme universels et partagés par tous les êtres humains. Et c'est pour ça que quand on descend à ce niveau-là, on peut comprendre l'autre. Parce que il est en train de vivre quelque chose dont on a nous-mêmes eu l'expérience, peut-être à un autre moment de notre vie. Et des exemples de besoins, c'est par exemple le besoin d'amour, le besoin de tendresse, le besoin de contact. Ça peut être aussi des besoins reliés au fait que, en tant qu'être humain, on est des êtres sociaux. Donc ça peut être un besoin d'appartenance. J'ai vraiment besoin d'appartenir au groupe d'habitants de ma commune et de faire des choses avec eux. Ou j'ai besoin, ce besoin d'appartenance, je peux aussi le nourrir au sein de ma famille. Mm-hmm. J'ai besoin de sentir que j'appartiens à la famille Jouvin. Ensuite, il y a des besoins... plus considérés comme des besoins de base, donc c'est besoin de se nourrir, besoin d'avoir un abri, et puis il y a des besoins considérés comme plus spirituels, donc qui sont les besoins de paix, les besoins d'harmonie.
Donc il y a plusieurs familles comme ça de besoins qui regroupent tout un tas de besoins différents, et on remarque que pour chaque personne ça va s'exprimer, comme tu l'as montré, dans différentes situations. Le besoin d'appartenance, pour certains ça va être dans le milieu politique, pour d'autres ça va être dans leur famille, pour d'autres ça va être dans leur couple, enfin bref, on va toujours trouver différentes situations, mais ça sera toujours ce même besoin là universel qui va nous titiller au fond de nous, qui sera satisfait ou pas. Donc c'est en ça qu'on peut se rejoindre les uns les autres et se comprendre les uns les autres.
Oui, parce que...
Sur ces besoins fondamentaux.
Oui. Face à un même besoin, les êtres humains vont avoir des stratégies complètement différentes. Si je dis, par exemple, j'ai faim, j'ai besoin de me nourrir, eh ben, je peux choisir de me préparer à manger chez moi. Je peux choisir d'acheter un plat préparé et de le faire chauffer chez moi. Je peux choisir d'aller au restaurant seul ou avec des amis. Et là, c'est un premier niveau de stratégie. Et après, j'ai autant de stratégies possibles pour savoir ce que je vais manger. Est-ce que je vais me contenter d'une salade, ou est-ce que je vais prendre, je vais me faire une entrée, un plat de résistance et un dessert. Donc, les stratégies sont très variées selon les êtres humains, et même pour une personne, ça peut être très varié au cours de la journée ou au cours de la vie.
Et du coup, la CNV, c'est une aide pour déjà voir quelle stratégie on utilise de façon, on va dire, habituelle. On a été tous éduqués à utiliser telle ou telle stratégie pour satisfaire tel ou tel besoin. Et donc là, on va en prendre conscience grâce à la CNV. On va remarquer comment on agit habituellement, quelles sont nos habitudes d'action, de stratégie. Et peut-être, du coup, en prendre du recul et réfléchir à comment on pourrait changer de stratégie pour mieux satisfaire nos besoins et peut-être mieux satisfaire ceux des autres, trouver plus d'harmonie.
Oui, ça c'est une blague qui existe chez les gens qui pratiquent la communication non violente, c'est-à-dire que je fais une demande importante à quelqu'un, la personne me dit non, et ben la blague c'est il y a 6 milliards d'êtres humains sur Terre. Donc j'ai 6 milliards d'autres possibilités pour demander à ce qui me tient à cœur à une autre personne.
Et alors si on a besoin de tendresse et qu'on demande de la tendresse à son mari et qu'il veut pas, on pourra lui dire, écoute, tu sais quoi, on est 6 milliards sur la planète.
Alors ça c'est oui,
et là
c'est...
ça deviendra une vraie bonne blague. Je pense que le mari va adorer.
c'est rigolo parce que par exemple si je prends l'exemple d'un déménagement, je vais déménager et j'ai un ami qui a un fourgon et qui pourrait m'aider, et je vais lui demander de l'aide pour mon déménagement. Et il me dit non, je suis absolument pas disponible ce week-end-là. Et là, je peux me trouver complètement désemparée et dire, bon, bah, fou, je déménage pas. Mais si, je déménage. Donc peut-être qu'il va accepter de me prêter son fourgon, même s'il n'est pas là. Et que je trouverai une autre amie ou un autre ami pour le conduire. Ou peut-être que je peux demander à quelqu'un d'autre de me prêter un fourgon.
Donc, ça nous incite à être créatifs, en fait.
Ça nous incite à être créatifs. Par contre, au sein du couple, c'est autre chose. C'est vrai qu'on va pas se dire moi là j'aimerais passer la soirée en amoureux avec mon compagnon et lui n'est pas disponible. Je vais peut-être pas essayer de trouver quelqu'un d'autre pour passer le même type de soirée parce que ça
répondrait pas à mon besoin fondamental qui est d'avoir du lien avec cette personne.
Voilà, du lien avec cette personne, et puis ça pourrait remettre en cause l'engagement que j'ai pris vis-à-vis de lui. Donc, je vais essayer de trouver une autre solution qui me convienne et qui ne mette pas en péril.
Je vais me dévaliser la tablette de chocolat, je vais me donner de la tendresse à moi toute seule. Oh, voilà. Ouais. Et donc, effectivement, c'est vrai que pour élaborer des stratégies plus efficaces et tout ça, ça demande d'avoir de l'imagination, de tester des nouvelles choses, de sortir de nos habitudes, de nos ornières des habitudes. Est-ce que c'est pas ça le plus gros ennemi, en fait, quand on commence à vouloir pratiquer la CNV, c'est les vieilles habitudes, quoi. L'habitude de réagir selon nos conditionnements.
Oui, les habitudes font partie des choses que l'on va déconditionner petit à petit. Donc, c'est des habitudes d'action concrète dans la vie, mais c'est ce qu'on va aussi beaucoup déconditionner, c'est des habitudes de pensée. C'est-à-dire que mon voisin passe sa tondeuse le samedi matin alors que j'ai envie de dormir ou que j'ai envie de passer un moment tranquille avec des amis chez moi, avant je peux me dire « mais quel con celui-là, il pourrait faire ça à un autre moment ». Là, au lieu de me dire « mais quel con celui-là qui passe sa tondeuse le samedi matin alors que le week-end, c'est un moment où tout le monde devrait avoir du repos », je peux déjà aller voir à l'intérieur de moi que je suis énervée parce que j'ai besoin de calme et je peux aussi me demander ce que lui, il est en train de faire de son côté. Donc, je peux voir que peut-être il travaille toute la semaine, qu'il a vraiment envie de prendre soin de son jardin et que pour lui, les créneaux disponibles, c'est le samedi et le dimanche. À partir de là, je suis déjà beaucoup plus calme et si c'est vraiment très important pour moi, je peux choisir d'aller le voir pour lui demander s'il peut pas passer sa tondeuse à un autre moment parce que j'ai vraiment besoin d'une plage de tranquillité ce samedi matin et peut-être que je vais trouver un accord avec lui ou peut-être que je peux me dire mais de toute façon, il le fait ce matin donc cet après-midi, ce sera tranquille.
Ce qui est intéressant là dans l'exemple, c'est qu'en fait, des fois, simplement de prendre conscience de notre besoin permet déjà de s'apaiser en fait. Sans chercher à le satisfaire, par exemple, là, il y aurait cette tondeuse qui ferait du bruit et qui m'énerve. Déjà, rien que le fait de prendre conscience que cette tondeuse me pèse, ce bruit me pèse, que j'ai besoin de calme, est-ce que déjà ça m'apporte un certain apaisement? Quelque part, c'est de l'empathie envers moi-même quand je dis... Oui, je sais, j'ai besoin de silence, là j'ai besoin de calme. Quelque part, je suis à l'écoute de moi-même. Et ça, déjà, ça apporte une certaine détente. Il n'y aura pas forcément besoin d'aller le voir et lui dire « s'il te plaît, arrête ta tondeuse là parce que ça m'énerve ». Peut-être que je suis plus à même de supporter le bruit de la tondeuse encore un quart d'heure ou une demi-heure à partir du moment où j'ai conscience que j'ai besoin de calme.
Oui, c'est ce qu'on appelle l'auto-empathie. C'est-à-dire aller voir à l'intérieur de soi-même ce qui se passe en empathie. Et ça, c'est aussi quelque chose que Marshall Rosenberg a vraiment mis en évidence, c'est que la bonne nouvelle par rapport à nos besoins, c'est qu'ils ont beaucoup plus besoin d'être reconnus par nous-mêmes que d'être satisfaits. Et que... on peut, grâce à une sorte de petite méditation en profondeur, aller contacter nos besoins à l'intérieur de nous-mêmes. Et à partir du moment où on les a contactés à l'intérieur de nous-mêmes, c'est comme si leur énergie nous habitait à l'intérieur et même nous habillait un petit peu comme un manteau. Et cette attention-là va faire que on va nous-mêmes en prendre un peu plus soin dans la vie et que autour de nous, ça va aussi se passer de manière plus fluide.
Même si dans chaque mal, une sorte de prière, un vœu apprivoisé, qu'a du mal à supporter connerie sur connerie, exciter nos êtres mal plantés, t'as vu dans le journal la honte que tu es, banni, c'est fini, le bonheur de la vie, banni, c'est fini, système d'économie, survivre et penser à ce que tu laisses sur le côté, peur de fabriquer un homme qui va en chier dans un monde étouffé. Dans un monde étouffé, qui ne sait plus respirer, qui demande qu'à courir, sourire, et puis chanter, et puis chanter. Cette chose qui est sous toi, sans ressourcer. Tu es complètement paumé, paumé, énervé. Tant de haine apprivoisée, médiatisée, qui s'enchaîne sur notre bonté. Aseptisée, réveille-toi et contre ça, peur de la vie, c'est bien là que tout est fini.
C'était sur les chapeaux de roue dans Les Enfants du Nouveau Monde sur Radio 16.
Alors Jean-Pierre, Hermine et Guy sont toujours présents autour de nous. Je vais vous mettre, vous aussi, vous donner la parole bientôt. Là, je voudrais vous demander des exemples, si vous avez, dans vos quotidiens respectifs, justement de penser comme ça, d'habitude de penser que vous auriez déconditionné, vous auriez réussi à dépasser, soit des pensées, soit des habitudes de comportement, l'habitude de s'énerver contre telle chose, ou de s'attrister, ou d'attendre vis-à-vis d'un tel ou un tel. Si vous pouvez réfléchir à ça, et on y revient dans quelques minutes si vous avez des exemples. Et en attendant, je voudrais juste qu'on resitue Martine Marshall-Rosenberg parce qu'on l'a cité et recité. C'est donc le fondateur de la communication non violente, c'est ça ?
Oui, Marshall Rosenberg. Donc, il est originaire d'une famille juive. Il est américain.
Il est encore en vie ?
Il est encore en vie aujourd'hui. Il est âgé et il s'est retiré de la vie publique. Et il avait été frappé par les émeutes raciales dans les années 50 aux États-Unis, en se disant mais la violence, elle est partie de rien, quoi. Et ça l'a fait beaucoup réfléchir à l'origine de la violence. Et il s'est aperçu que la violence physique était précédée dans peut-être 98% des cas par de la violence verbale. Et il s'est intéressé à quelque chose qui passe par le langage pour amener de la paix et de l'harmonie. Et donc il a fait la synthèse entre plusieurs courants qui étaient présents aux États-Unis à ce moment-là, c'est-à-dire que il y a un théoricien qui s'appelle Maslow, qui a beaucoup travaillé sur les besoins humains et qui a établi la pyramide des besoins de Maslow. Donc ça, c'est un des premiers théoriciens sur lequel s'est appuyé Marshall. Et le deuxième, c'est Carl Rogers. Donc Marshall a été un de ses élèves, a travaillé avec lui. Et Rogers, lui, s'est beaucoup intéressé aux émotions et à l'importance pour chaque être humain d'être en contact avec ses émotions et de pouvoir les verbaliser, notamment au sein du couple et au sein de la famille. Et ce qu'il a apporté Marshall, eh bien, il a fait le lien. Il a fait le lien entre, voilà, il se passe quelque chose à l'extérieur, ou bien j'ai une pensée qui me vient, ça fait naître une émotion à l'intérieur de moi, et cette émotion, je peux la relier à un besoin. Et à partir du moment où j'ai fait ce lien-là, eh ben, je peux choisir de me rendre la vie plus belle, ou de demander à l'autre de me rendre la vie plus belle, parce que je vais faire une demande, c'est-à-dire un petit pas pour changer les choses.
Mmh. Merci Martine.
Avec plaisir.
Reprends ton souffle. Maintenant, on va passer aux participants de l'atelier. Alors, est-ce que vous avez trouvé des exemples dans vos vies où la CNV vous a permis de dépasser des habitudes de comportement ou de pensée ?
Pas vraiment un exemple concret, c'est-à-dire qu'une situation, mais c'est plutôt voilà, de dépasser. Les états où on prend des choses sur nous et on se sent coupable ou culpabilisé par nos propres sentiments, parce que souvent on est habité par plusieurs sentiments. Et dans le début, voilà, on se sent vraiment embêté par ça. Et avec la communication non violente, j'ai vraiment appris qu'en fin de compte, tous ces sentiments, même si ils sont pas forcément, ils peuvent être même en opposition à nous, ils vivent à nous, ils font partie de nous et ils font partie de notre richesse. Et ça, vraiment, voilà, ça c'est vraiment quand on apprend que voilà que c'est une richesse à nous et que ça vit tout ensemble comme on vit avec tous les humains ici sur la terre aussi, ou la nature, où il y a une diversification de nos sentiments, et voilà, ça amène une ouverture en soi et faire soi-même et aussi faire les autres, et voilà, ça c'est quelque chose qui a changé mon propre attitude de faire la vie.
Un beau changement de regard, parce que tu passais de quelque chose qui t'embêtait, qui t'ennuyait, que tu avais plutôt envie d'éliminer, à finalement le considérer comme une richesse.
Voilà.
Et comme une de tes beautés qui fait la personne unique que tu es à ce moment précis.
Ouais.
Magnifique. Ouais. Guy, tu voulais dire quelque chose ?
Oui, moi c'est plutôt vis-à-vis de la colère.
Oui.
Pas de la mienne, parce que c'est quelque chose justement que je ne connais quasiment pas. Que j'exprime surtout pas, mais même c'est pas un sentiment qui est fréquent chez moi, que vraiment aller le chercher. Mais par contre, face à la colère de l'autre, je pouvait pas prendre au sérieux la colère de l'autre.
Ah bon?
Donc, bah, absolument, oui. Alors, dans le meilleur des cas, j'avais pitié de lui et je l'ai fermé. Parce que je me disais, il est en pleine dévalo, le pauvre bougre, et compagnie. Ou alors, je me marrais, et là, ça montait encore plus, et ça explosait, quoi. Donc, la stratégie n'était pas vraiment très bonne. Et avec la communication non violente, j'ai appris qu'en fait, cette colère était issue ben, d'une peur, d'un vécu ou d'un sentiment qui était chez l'autre, qui bien sûr ne m'appartenait pas, mais que elle avait une raison d'être chez lui, et que en écoutant ce qu'il y avait derrière la colère et en répondant à ce qui était derrière, c'est-à-dire en acceptant qu'il y ait une peur, en acceptant ce qu'elle était à sa source, eh ben la colère est prise, enfin est écoutée. Parce qu'en fait, j'écoutais pas une colère. C'était tellement stupide ce qu'on raconte une colère que j'écoutais pas.
Et le fait de l'écouter, ça
l'apaise.
Et bien,
je peux répondre avec une empathie. Et du coup, ben, la colère de l'autre se calme. Et on arrive au vrai sujet derrière. Et c'est un grand progrès.
Waouh. Dépasser donc l'obstacle de la colère.
Oui. Et écouter l'autre. Parce qu'on a beaucoup parlé de communication du verbe, mais l'écoute est au moins aussi importante en communication non violente que ce que l'on dit.
Ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est que la communication non violente peut même servir à écouter les communicants violents. Peut même servir à écouter celui qui est en colère. Parce que nous, on a les outils pour décrypter derrière sa colère. Qu'est-ce qu'il y a ?
C'est pas nous l'accusé. Quand quelqu'un est en colère ou qui est violent, nous ne sommes pas coupables. Ça lui appartient à lui. Et le simple fait de savoir que c'est à lui que ça appartient, eh ben, on monte pas sur nos chevaux, son propre chevaux. Quoi. Voilà.
Merci à tous pour vos témoignages et merci beaucoup Martine. Un mail peut-être pour finir. Eh ben non, vous en aurez pas. Non mais on est non violent, mais quand même on a des limites. Hein. Allez, merci à tous.
Merci à toi.
À bientôt. Retrouvez Martine Jouvin lors des ateliers inspirés de la communication non violente qu'elle anime une fois par mois. C'est le samedi matin à Saint-Martin de Valgalgue ou bien le dimanche matin à Molière-sur-Cèze. Vous pouvez la contacter. Je vous laisse prendre un crayon et un papier et je vous donne son numéro. Vous pouvez donc la contacter au 07 62 74 02 16. 07 62 74 02 16. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain et d'ici là, je vous souhaite eh bien, le meilleur. Rien que ça. Soyons généreux.
My gang will get you.
Retrouvez les enfants du Nouveau Monde le premier dimanche du mois à 19h sur Radio 16 99.2. Scenes of rape in the Arroyo.